Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Romancier, poète, essayiste, critique, depuis l'âge de 20 ans, il parcourt le monde, du Suriname au Japon, de l'Australie à l'Afrique, des îles d'Aran à l'Espagne. Européen nomade, coucou toujours logé dans le nid d'autrui, selon ses propres mots, créature hybride, qui est partout chez lui et partout un étranger de passage, quand il ne sillonne pas le monde, il partage sa vie entre Amsterdam, la ville aquatique du Nord, et une île espagnole, l'île Estivale, qu'il évoque dans Pluie rouge, son dernier livre traduit en français et édité chez Actes Sud. L'île du jardin, avec ses deux palmiers, que j'ai plantés, dit-il, il y a plus de 30 ans, et qui, tout ce temps, sont restés au même endroit, tandis que je dansais autour du monde. Marcher, écrire, même mouvement, même dédoublement, se rapprocher et s'éloigner. Le vrai voyageur vit de son déchirement entre la joie de retrouver et la peine de devoir quitter à nouveau. Il est, dit-il, l'éternel pèlerin du manque, pèlerin de la mémoire aussi, du souvenir, qui cartographie le passage du temps. Voici ce que j'ai souvent été. Un homme sur un chemin, un homme à bord d'un avion, un homme avec une femme. Et voici ce que j'ai souvent été aussi, un homme qui sous une pierre voulait se cacher pour ne plus voir la lumière. Ces deux hommes, ils portent mes valises, lisent mes journaux, gagnent mon pain. Ensemble, nous traversons le bruit et l'air du monde, cherchant la statue invisible où tous trois figurent sous la forme d'un seul. Les affinités électives de C.S. Notebaum.
Na fria planissim caldo ai silencio sol mortiço vai descendo ao ocidente pálida a luz assoma
C'est Notebaum.
Bonjour.
On écoutait la voix de Cristina Branco à l'instant, une chanson, un fado, intitulée Os Solitarios.
Oui, mais c'est un fado écrit par un poète néerlandais qui est mort en 38, Slawarov, un médecin de bord, un poète maudit, qui aimait les poètes maudits français, qui a traduit Charles Gros et d'autres, et qui était, disons, amoureux de cette province spéciale de la nostalgie portugaise qui s'appelle Saudade, et qui a écrit des fados, intitulé certaines poésies, avec des titres portugais, « O Engaitado », par exemple. Et c'était un grand romantique aussi. Et quelqu'un a eu l'idée merveilleuse de traduire ses poèmes en portugais, et Cristina Branco les a chantés. Et ça, lui, parce que c'était un romantique, il aimait les femmes, ça lui aurait plu énormément qu'une belle femme portugaise avait chanté ses poèmes, je ne sais pas, 70 ans après sa mort. Et j'étais là en studio quand elle a fait ça, c'est une femme belle, assez petite, avec une force énorme quand elle chante.
Et dans ce même studio, vous avez enregistré, on écoutera votre voix un peu plus tard,
oui,
au cours de cet entretien.
J'ai lu un de ses poèmes. Moi, je trouvais qu'avec cette voix très belle de femme, moi lisant un poème assez sombre avec ma voix masculine, ça n'allait pas, mais les gens ont voulu faire ça et on l'a laissé comme ça.
On l'écoutera tout à l'heure. C'est noté. Bon, vous savez, je demande à chacun de mes invités d'apporter une photo de leurs 20 ans. Alors, comme je sais, vous en avez une ?
Oui, oui, oui. Oui, enfin, c'est une photo. Vous savez, moi j'ai écrit quelque part, comment ça s'appelle en français ? La transmigration de l'âme ne se passe pas après, mais pendant la vie.
La migration des âmes n'a pas lieu après, mais pendant la vie.
Oui.
Vous l'avez écrit à cet âge-là, je crois.
Non, je l'ai écrit...
Beaucoup plus tard.
C'est dans ce livre-là. C'est,
Autoportrait d'un autre.
Autoportrait d'un autre.
Mais je croyais que c'était une phrase qui venait de vos...
Et la preuve de ce dit, c'est quand même que là, je reconnais... quelque chose, mais pas beaucoup. Je vois quelqu'un de très mince, si je dois dire, un peu élégant, pensif. C'était le temps d'avoir écrit mon premier roman que j'ai écrit il y a 55 ans maintenant.
Philippe et les autres.
Oui, Philippe et les autres. Et quand je vois, parce que c'est une folder, à côté, il y a moi avec Umberto Eco. Et c'est un autre pour moi. Et là encore, il y a quelques photos. Il y a moi, 68, en Bolivie, devant DC-3. Ce sont des stations de la vie.
Il y a quand même un point commun entre tous ces...
Non, le point commun, c'est peut-être l'intérieur. Mais l'extérieur change beaucoup. Et il y a aussi une page de manuscrit de mon premier roman... Là, il n'y a pas vraiment, parce que l'écriture est restée plus ou moins la même chose.
C'est noté. Bon, vous êtes né à La Haye ?
Je suis né à La Haye, oui.
En 1933 ?
Oui.
Et vous avez écrit « Il m'a fallu apprendre que le passé, même le sien propre, ne peut que s'inventer. » Et j'aimerais que vous nous parliez de votre enfance, ou que vous l'inventiez pour nous.
Oui, mais... Il faut l'inventer dans mon cas, parce que une fois à La Haye, dans le musée littéraire, on a fait une exposition de ma vie, œuvre et vie, ça s'appelle. Et un monsieur est venu vers moi, il a dit, vous savez, quand on fait une exposition pareille, on va dans le cadastre et on cherche les dates de votre vie. Et là, j'ai découvert quelque chose. Est-ce que vous êtes... au courant que vos parents ont déménagé 8 fois entre votre naissance et le début de la guerre. Or, en 7 ans, ils ont déménagé 8 fois. Je dis non, je ne sais pas, moi. Alors...
Vous n'en aviez aucun souvenir ?
Non. Et je suis allé à ma mère et j'ai dit, maman, regarde, ces gens-là disent que vous... Et elle a dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est absolument pas vrai. Mais j'avais la liste. J'ai dit, mais regarde bien la liste. Et elle a reconnu que c'était vrai. C'était le temps de la crise, comme on commence à en avoir maintenant. Apparemment, ils avaient des difficultés financières. Mon père, avec une certaine manière de se porter, où on l'a donné une nouvelle maison tout le temps, mais ils ne pouvaient pas payer. Et puis, ils ont été chassés ou pas, je ne sais pas, déménagés encore une fois. Puis, la guerre est venue. Et nous, nous vivions à côté d'une base
militaire,
une
allemande.
Base militaire de comment dit-on de l'air,
et un aérodrome.
Et les Allemands ont bombardé là, ce qui était tout près de notre maison. Et moi, apparemment, j'avais une peur terrible. J'ai tremblé et ils ont jeté de l'eau froide. Et moi, je dis toujours, c'est une bêtise, mais quand même, j'ai pas de mémoire avant ce moment-là. J'ai pas les fameux, par exemple, Nabokov ou Proust, ils avaient des mémoires dont ils ont pu écrire beaucoup plus tard dans leur vie. Je n'ai rien. Et c'est pas une invention. Je ne me rappelle rien. Je ne me rappelle pas mon premier jour de l'école. Je ne me rappelle pas toutes les écoles qui sont venues après. Et ça recommence, ça commence un peu au moment de l'hiver que nous nommons guerre de faim. Il y a l'année de 44, c'était une... Mes parents, entre-temps, avaient divorcé. J'étais avec mon père. Ma sœur et mon frère étaient avec ma mère. En province, et puis la fin est arrivée, mon père m'a envoyé chez ma mère. Et là commence aussi un peu les mémoires. Et c'est comme ça. Je me suis inventé une vie, peut-être, ça on peut dire.
Dans Pluie rouge, votre dernier livre, traduit en français par Philippe Noble et publié aux éditions Actes Sud, vous esquissez en quelques phrases le portrait peu complaisant de vous-même, un jeune homme. Alors, voilà, je vais lire cet extrait. Je lui pardonne, bien obligé, ses détestables engouements amoureux pour des actrices de cinéma ou des filles en chair à os, son admiration béate de tous ceux qu'il prenait pour de l'art, et beaucoup de blabla éthique qui sent encore le pensionnat et les bons pères. Si je voulais présenter des arguments à sa décharge, j'aboutirais au misérabilisme d'une guerre, des parents divorcés, des pères morts et des familles d'accueil. Mais j'en ai pas envie, ne serait-ce qu'en raison de l'illusion de la troisième personne qui me sert à maintenir autant que possible à distance ce juvénile avatar de moi-même. Il n'en existe, fort heureusement, pas de photos. Mais la première fois que je suis venue à Amsterdam, je paradais avec une canne de jonc, m'efforçant d'avoir l'air de quelque chose sans savoir exactement de quoi, sans doute de Truman Capote sur la page 4 de couverture des Domaines hantés, un auteur ténébreux, un gilet de brocart et qui ressemblait aussi peu à son futur personnage bouffi que moi au mien.
Ben, je me suis inventé un personnage pour finalement entrer dans la capitale. C'est ça, oui. Et quand j'y pense, c'était peut-être ridicule, mais pas plus ridicule que les punks de maintenant. Non, c'est pour cela que...
Il fallait un déguisement ? Un masque ?
Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je suis un peu dur avec moi-même. C'est parce que, à ce moment-là, pour la première fois, en écrivant Pluie rouge, j'avais lu mes journaux de ce temps-là. Et je les trouvais sans talent et assez bêtes. C'est ça.
C'est ce que vous dites, oui.
Oui, c'est ce que je dis.
Alors, vous avez été, c'est Snotterbaum, pensionnaire, élève chez les franciscains,
oui.
Les moines franciscains, et puis chez les augustiniens. Ce sont eux qui vous ont...
Les augustins, je crois que ça s'appelle.
Oui,
augustins. C'était que ma mère, qui était divorcée, mon père est mort. Dans la guerre, à la fin, le bombardement de La Haye, les Anglais ont bombardé La Haye et par erreur, ils ont pas bombardé des choses nécessaires, mais ils ont bombardé des quartiers résidentiels. Et là, mon père est mort. Alors, on m'a renvoyé chez ma mère parce que encore une fois, il y avait eu une change. Et elle l'a remarié en 48, un monsieur très catholique. Et moi, j'étais impossible, je crois bien. Et on m'a mis dans des écoles monastiques, un chez les franciscains, où j'ai appris quand même beaucoup, dont je me sers encore, le latin et le grec. Mais les franciscains ne m'aimaient pas tant, ils m'ont mis à la porte, et puis mes parents, ils m'ont mis chez des augustins, c'est un ordre un peu plus intellectuel. Et là, la même chose, l'éducation dans ce temps-là en Hollande était assez sévère. On a dû apprendre les trois langues modernes, hors le français, que maintenant on ne fait plus. L'allemand aussi, on le fait rarement. Et l'anglais, bien sûr qu'on le fait toujours. Or, on avait trois langues étrangères et à côté, le grec et le latin. Moi, je suis toujours heureux d'avoir fait ça. Mais je n'ai pas fini, parce qu'on m'a jeté là aussi. Mais le début était là, le fondement, si on veut dire. Et le français que je parle, je n'ai pas appris là, mais j'ai appris la base. Le français que je parle, j'ai appris après en faisant l'autostop avec des camionneurs en France pendant 2-3 ans. Mais il y avait la base.
Donc c'est chez les franciscains et les augustiniens que vous avez à la fois appris à lire, à écrire, qui vous ont donné le goût des lettres classiques. Mais vous dites, chez moi, on n'avait pas des livres, il m'a fallu tout découvrir par moi-même, les livres aussi bien que le monde.
C'est vrai.
Et qu'est-ce qu'il y avait pour vous guider
dans... Non, je crois, ce que j'avais lu à ce temps-là, par exemple... Mon premier voyage en autostop, c'était en 53, au Grand Nord, et j'ai rencontré une fille française qui m'a parlé d'un livre, Le Matéotime de Henri Bosco. Et je l'ai lu, et ça m'a inspiré, je crois, pour écrire avec Le Grand Mall et avec Truman Capote, Other Voices, Other Rooms, j'ignore le titre français. En lisant ces trois livres, là, j'ai pensé, il faut aller au sud. Il faut voir la Provence. Mais j'ai écrit sur la Provence, dans Philippe et les autres, sans avoir vu la Provence. C'est plus tard que je l'ai vu, Arles et les Aliscans et tout cela. Mais le sud était pour moi la grande découverte. Il faut se rappeler qu'après la guerre, tout était chez nous sombre, gris, détruit, comme en Allemagne, et échappé, c'était vers le sud. C'était lumière, et comme j'ai dit, opera bouffa italien, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut vivre. Et après, c'est devenu l'Espagne, qui était une déception après l'Italie, mais l'Espagne est devenue l'amour de ma vie.
On va reparler de l'Espagne. Donc, vers 17-18 ans, vous vous destiniez à une vie monastique. Ça n'a pas duré longtemps.
Pas duré longtemps, mais ça a été important.
Oui. Oui. Vous envisagiez d'entrer dans l'ordre des trappistes, règles très, très strictes. Mais le désir de bouger, de voyager, a pris le dessus. Et vous êtes entré, en fait, dans ce que vous appelez l'ordre des voyageurs.
Oui, mais il faut qu'on... Oui. La contradiction, on peut...
Est plus apparente que réelle.
On peut définir un peu plus net. C'est que je suis venu, parce que je suis un curieux de toujours, dans ce monastère trappiste à la frontière néerlando-belge. Les trappistes, c'est un ordre qui ont une règle. Les règles, c'est en latin « stabilitas loci ». Ça veut dire qu'on reste là pour sa vie. Mais j'avais vu les rituels, j'aime les choses extrêmes, j'aime les existences extrêmes. Ce sont des extrémistes, les moines, qui vivent dans les ordres contemplatifs. Or, je me suis dit, ça c'est pour moi, et je suis allé à l'abbé, on dit ça, abbé, non je crois.
Chez l'abbé, oui, le père abbé.
disons, le roi absolu des monastères. Il doit y avoir vu immédiatement que c'était pas pour moi, ça. Mais il m'a laissé. Là, je suis toujours reconnaissant. Il a dit, oui, on vous donnera une cellule. On vous donne un livre latin que vous allez traduire. Voilà le dictionnaire, voilà le papier, voilà les crayons. Et après quelques jours, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Et j'ai choisi, comme vie, le contraire. Mais je revisite toujours les monastères pour y être pour tout petit, quelques heures ou deux jours.
Pour la stabilité du lieu.
Pour la stabilité du lieu des autres, tandis que le mien n'existe pas.
Alors, vous êtes échappé de ce couvent, peut-être avec le papier, la plume, je ne sais pas, peut-être le dictionnaire ou pas, mais enfin, vous avez importé peut-être les instruments de l'écrivain.
Oui, c'est pas longtemps avant, après que j'ai commencé. Mais si on me demande, est-ce que vous avez voulu être écrivain, je me rappelle rien. Je me rappelle pas parce que mon journal ne dit rien là-dessus. Il se passe qu'un jour, je me suis mis à une table dans la bibliothèque municipale de ma ville et j'ai commencé à écrire ce livre-là. Et j'ai montré le premier chapitre à un écrivain. J'ai sonné à sa porte, disant « Monsieur, j'ai écrit un livre, un chapitre. » Et étrangement, parce que ça doit arriver souvent et les gens s'ennuient avec ça, mais il a lu, il a dit « Bien, je vais le présenter chez un éditeur, Amsterdam. » Ils m'ont invité, deux dames, ils avaient lu ça. Et, si vous voulez finir ce livre, on vous donne 300 florins. Eh bien, je l'ai fini.
À cause des 300 florins.
Ça, je ne peux pas dire. Peut-être que je voulais le faire aussi. Parce que... Mais après, on est écrivain. Parce que tout le monde le dit. Quelqu'un qui a écrit un livre est un écrivain. C'est simplement comme ça. Seulement après, c'était 55. Le livre, j'avais écrit en 54. En 55, il y avait un livre. Le livre avait un certain succès parce que c'était différent de tout ce que se faisait chez nous, qui était plutôt la tradition réaliste, assez noire, sombre, après la guerre quand même. Les autres étaient un peu plus vieux que moi. Et il y a deux grands écrivains, Gerard Reve et Willem Frederik Hermans, que j'admire encore, mais moi j'étais très différent. Or le livre avait un certain succès. Il y a encore des gens qui en parlent. Il y a un réédité maintenant, on l'a réédité. Et c'est drôle de quelque chose que vous avez écrit il y a 55 ans, par exemple, vient maintenant de paraître au Corée.
En Corée.
Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Mais là, on n'a pas de réponse. C'est aussi en Italie, en Russie. Et bien, quelque chose de ce livre a survécu quand même. Mais moi, j'avais un problème après l'avoir écrit. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne savais pas.
Thank you.
Ninke Laverman, Snow in August, says Notenboom.
Oui, la langue que vous entendez là, même moi, je dois avoir une... Elle est néerlandaise, mais elle chante en frison. La Frise, c'est une province du Nord qui a sa propre langue, langue, pas dialecte. Et je ne la connaissais pas, je ne la connais pas encore. J'avais vu le disque qui avait le mot nomade.
Mm-hmm, oui, c'est le titre de l'album, oui.
Et j'avais lu dans un journal que pour l'écrire, elle est allée en Mongolie, a vécu avec les Mongoliens, je pense, on dit. Et, mais elle chante pas en néerlandais, elle chante en frise, ce qui est une aventure en soi chez nous, parce que les gens ne comprennent pas le frise. Et moi, je peux le lire avec une traduction, comme ici en anglais, à côté, parce qu'elle dit « neige en août ». Cet amour, neige en août, il ne devrait pas être vrai, mais quand même, etc. Ça. Parce que comme ça, c'est très, ce sont des textes belles, beaux, je crois, le texte, oui. Elle chante bien, je trouve.
Et puis le titre de l'album avait tout pour vous attirer.
Oui, nomade. Parce que mon livre, l'Hôtel Nomade, non, mm-hmm. Tout ce qui est nomade mm-hmm. me plaît. Mm-hmm.
Et justement, alors, pour faire un pas en arrière... un beau jour de 1953, vous avez 19 ans, vous avez bouclé votre sac à dos, vous êtes parti sur les routes, un stop. Vers où vers quelle destination? Paris, l'Italie, Montréal? Parce qu'il y a aussi des voyages, des destinations qui étaient rêvées, prévues, et finalement...
Je crois que je suis parti pour partir.
Peu importe où.
N'importe où. C'est ce que j'ai dit aussi quand on me demande maintenant où aller, les jeunes qui me demandent ça. J'ai dit, prenez un avion quelque part, Bangkok, Buenos Aires, va aux stations des autobus et prenez le premier bus, sans savoir où. Et là, vous allez découvrir comment le monde est fait, si on continue de faire ça. Enfin, c'est ma recette à moi. Mm-hmm. Je l'ai toujours fait comme ça et... Mm-hmm.
Voyager, dites-vous, c'est jouer avec les séductions de 1000 vies parallèles. Il y a toujours une existence imaginable en Espagne ou à Rio de Janeiro, même si vous savez que cette vie-là, vous ne la mènerez jamais.
Oui, c'est vrai.
Écrire, c'est un peu la même chose, non? C'est faire des hypothèses de vie.
Oui, écrire, ça, c'est un peu plus compliqué.
Sans doute, oui. C'est plus compliqué que prendre un avion et un bus. Mais il y a aussi cette possibilité.
Il me faut toujours des îles, pas des îles, disons, physiques, mais des îles de temps, pour me mettre complètement dos envers le monde, pour voir un temps libre de au moins 3-4 mois pour écrire. Et ça peut... Souvent, ce sont des romans ou des histoires, ou un livre plus ou moins autobiographique comme Pluie rouge.
Ouais. Alors, cette même année, 1953, l'année de votre grand départ, c'est aussi l'année où j'ai lu, dites-vous, pour la première fois, Faulkner et Sartre. Cette année, voyageant et lisant, je me suis ouvert la porte de la liberté. Depuis, je n'ai plus cessé de marcher ni de lire.
Mm-hmm. Et d'une certaine façon, je ne suis jamais revenu. Parce que j'ai dit que ce sac à dos, etc., j'ai dit bonjour à ma mère et je suis revenu, mais je suis reparti. Et c'est encore cette vie. Enfin, maintenant, il y a l'âge. Mais dans 2 mois, j'irai en Australie. Et j'ai fait 2 fois dans les dernières années... le pèlerinage, comme on dit, des 33 temples au Japon, et je suis en train d'en faire un livre. Alors ça veut dire que je dois refaire ce voyage encore une fois. Il y aura sans doute un moment où ce sera plus possible, mais ce n'est pas encore arrivé.
Dans Pluie rouge, il y a un chapitre intitulé « Rencontre avec une capitale ». Alors, la capitale en question, ce n'est pas une ville, mais une lettre de l'alphabet, c'est la lettre L, lettre qui a été dépêchée par la vénérable institution florentine qui s'appelle l'Accademia della Crusca. Et cette lettre, elle, débarque chez vous, dans votre île espagnole.
Oui.
Mais, Vous êtes invité à écrire un texte sur la liberté.
Donc, pour expliquer,
c'est pas ça ?
Oui, plus ou moins, mais il y avait 25, 26 écrivains internationaux qu'on a donné arbitrairement
à chacun une lettre.
Pour écrire sur un mot qui, dans leur langue, langue à eux, représentait pour eux l'idée de la liberté. Alors, à moi, on m'a donné le L. L'L est venu vers moi parce que je n'avais pas envie d'écrire un essai ennuyeux. Et j'ai écrit un conte où L'L débarque chez moi dans sa forme de capital, de façon qu'elle... On dit L ou il
La lettre L.
L. Alors, qu'elle, c'est étrange.
Oui.
Parce qu'en allemand, c'est masculin. Pouvait s'asseoir.
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 Oui. Et alors, le problème est que le mot liberté, dans votre langue, dans la langue où vous êtes né, dans le néerlandais, ne commence pas par la lettre L.
Non, contraire.
Et donc, vous avez été obligé de trouver un détour.
Non. Ah, dans ce sens-là, oui. Ma choix que j'ai discuté avec la L, parce que la L voulait savoir qu'est-ce que vient après moi, quelle lettre. Et j'avais le choix pour moi entre l'open, ce qui est marcher, ce qui est voyager, ou lesen, ce qui est lire. Et j'avais un choix. Et finalement, j'ai choisi lire. Mais les deux, j'ai dit, les deux étaient dans ma vie d'une grande importance parce que lire et écrire, et l'autre, c'est l'open et voyager. Et j'ai fait les deux. J'ai écrit à peu près 10 romans et j'ai écrit à peu près 10 livres de voyage qui ne sont pas tous traduits en France. Mais il y en a.
Voyager pourrait être, et c'est souvent une façon de s'échapper, de fuir, de se fuir. mais le grand voyageur que vous êtes dit que on ne peut pas fuir sa propre compagnie.
Non, certain. Mais vous savez, j'ai dû répondre à cette question
des millions de fois.
Oui, est-ce que vous êtes en fuite de quelque chose ou pour quelque chose? J'ai dit non, je suis chez moi. Je suis avec moi, dans le sens heideggerien, si vous voulez. Je suis avec moi, je voyage avec moi et je peux méditer et écrire dans une chambre d'hôtel en Afrique ou au Japon. Là, peut-être les autres qui n'osent pas voyager, ce que je leur ai tout le respect pour les gens qui restent chez eux. On m'a toujours jeté devant moi Pascal qui a dit « Tout le malheur de l'humanité vient de que quelqu'un ne peut pas rester 24 heures ». Oui, c'est ça, peut-être, mais...
C'est-à-dire qu'on a l'impression que celui qui part, celui qui voyage, doit toujours se justifier de ne pas rester justement dans la stabilité
c'est
du lieu.
C'est ça, parce que ça n'appartient pas à la normalité, les gens qui voyagent toujours, sauf pour la commis voyageur.
Voyager, c'est surtout des rencontres avec des hommes, avec des femmes, avec des paysages, avec des bibliothèques, avec des tableaux, qui laissent des empreintes qui entrent dans le palais de la mémoire. Le mot est de Saint-Augustin, et un élève que vous avez été des moines augustiniens, vous devez évidemment le connaître. En décrivant toutes les capacités et les mécanismes du souvenir, Saint-Augustin dit « C'est en moi-même que je fais tout cela dans l'immense palais de ma mémoire.
Mm-hmm. »
Et il dit encore « Et j'entre dans les domaines, dans les vastes palais de ma mémoire où sont renfermés les trésors de ces innombrables images entrées par la porte des sens. »
C'est juste. Mais il dit, heureusement, il dit aussi que de temps en temps, on oublie où vous avez mis vos mémoires dans ce palais. Et il y a une sorte d'aide-mémoire qui consiste d'une géographie du palais, de savoir où vous avez laissé vos mémoires. Eh bien, mais il a écrit des très belles pages sur ce thème, oui.
Et alors, dans Pluie Rouge, vous écrivez, je me suis souvent demandé ce que deviennent les images, les millions ou milliards d'images que nous voyons durant notre vie. Nous les transformons pour en fabriquer nos rêves, comme concentrés de mémoire, comme expérience et comme mise en garde, mais en même temps nous laissons s'écouler à travers nous, comme dans le sas d'une écluse, des quantités infinies d'images que nous ne nous rappellerons plus jamais dans leur unicité.
Mmh. C'est un thème qui, par exemple, Borges a traité dans cette histoire fabuleuse de Funès ou la mémoire. C'est le pauvre type de Funès qui ne peut oublier aucune image qu'il a vue. Mais ce que je me suis demandé, par exemple, hier, j'ai fait beaucoup de trajets au métro. On voit des milliers de gens, littéralement. On regarde seulement quelques, mais on les regarde, on les remarque. Et quand nous avons une rêve, comment est-ce qu'on a sculpté les gens qu'on voit dans son rêve? Est-ce qu'on les a combinés de tous les gens qu'on a vus? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand j'ai un rêve avec quelqu'un que je ne connais pas, comment je l'ai fabriqué? Parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. Ça ne vient pas de l'extérieur, les rêves viennent de l'intérieur. Je trouve ça très intéressant, je n'ai pas la réponse.
Page 127, ou 126 plutôt, de Pluie rouge. Que faisons-nous des gens que nous avons rencontrés? Sont-ils les inconnus que nous croisons parfois dans nos rêves? Des visages dont le nom a été érodé? Subsistent-ils des traces de leur passage? D'infimes particules qui s'associent à l'écriture de mes livres? Des associations cachées qui se mettent à vibrer lorsque je pense à des communistes, à un sac de marine, à des Américains, des routes nocturnes, des chauffeurs de poids lourds, des bancs publics, à des femmes, à des Français ou à la police allemande. Où a bien pu passer tout cela?
Oui, si les mémoires avaient un poids, on ne pourrait plus marcher.
D'ailleurs, vous dites... Dans Autoportrait d'un autre, le nombre de vies qui peuplent un corps vieilli est intenable. C'est quelque chose qui revient constamment, parfois en sourdine, parfois de façon presque enjouée, parfois de façon très grave, mais qui revient très souvent dans vos écrits. C'est-à-dire, comment contenir toutes les images que nous avons croisées, toutes les personnes que nous avons rencontrées, et plus l'âge avance, et plus ce poids devient énorme.
Oui, bien, Proust a dit...
Encore lui.
Il a dit que la place que nous... Comment, je ne sais plus la phrase par cœur, mais la place que nous avons dans le temps est énorme comparée aux places que nous avons dans l'espace, parce que l'espace est restreint, c'est nous, là, voilà, c'est tout. Mais dans le temps, on est partout. On a cette vie qui a duré assez longtemps, mais aussi on a la mémoire des vies qu'on n'a pas eues. Par exemple, si je lis sur l'histoire égyptienne, ça aussi appartient à ma conscience. Or, on a un réservoir incroyable de temps qu'on peut considérer. Voyager comme je l'ai fait, c'est une forme de méditer. C'est une méditation nourrie par les notes que je fais, que les choses que j'écris quand je voyage. J'ai toujours un petit cahier d'actes sud avec moi qui est rempli à la fin d'un voyage. Et je n'écris pas en voyageant, j'écris quand je me mets quelque part pour écrire. Et là, j'utilise toutes mes notes. Et là, je vois ce que j'ai noté, ce sont, disons, des mémoires visibles. Une note, une notation, si on veut. C'est comme, je ne fais pas des photos, mais c'est comme une photo. C'est une image mentale que j'ai mis en mots. Une atmosphère, un visage, mais aussi une pensée, ou un journal que j'ai lu aux Indes. Enfin... C'est un réservoir énorme que je traîne avec moi et de temps en temps je me mets en silence et je fais. O engaitado, ik voel mij van binnen bederven. Nu weet ik waaraan ik zal sterven, aan de oevers van de Taag. Aan de gele, afhellende oevers
Er is niets schoners en droevers en het bestaan verheven en traag. Ik bewandel 's middags de prado's en 's avonds hoor ik de fado's aanklagen tot diep in de nacht. La vida es immensa tristura. Ik voel mij al samensnoeren met de kwaal die haar tijd afwacht. De vrouwen die vis verkopen en de wezens die niets meer hopen dan één doel om meer voor een keer. Ze zingen ze even verlaten door de galmgaten der straten in een stilte zonder verweer. Eén van hen hoorde ik zingen en mijn kilte tot droefenis dwingen. Ik heb niets tot troost aan mijn klacht. Het leven kent geen genade, niets heb ik dan mijn vader om te vullen mijn lege nacht. Ik voel mij van binnen bederven. Hier heeft het zin om te sterven waar alles wulp zwelgt in smart. Lisboa, eens stad der steden die het verleden voortsleept in het heden en ruïnes met roem verwacht. Ik word door die waan betoverd, ook ik heb ontdekt en veroverd die later alles verloor. Om hier aan de trage stroom bij het graf van de grootste droom te sterven. Todo es dor.
C'est votre voix, c'est notre
oui, poème. Oui, c'est ma voix, mais c'est le poème de Slavov. Il y a une tournure dans ce poème qui est, qu'on ne peut pas faire en français, qu'on peut faire en allemand et en néerlandais, et même aussi en anglais, je pense. Parce qu'il dit qu'il sait de quoi il va mourir. C'était son cas, il était médecin, il avait une sorte de tuberculose. Mais le « de quoi » en néerlandais a une certaine implication de où. Et c'est un double jeu de mots qu'on ne peut pas traduire, mais il a dit en même temps qu'il savait de quoi il allait mourir et où, au bord de la Tage. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Au bord du Tage.
Oui, et c'est au bord du Tage. Ah, c'est un grand poète qui... la poésie est de temps en temps traduisible et de temps en temps pas. Au moins, on l'a traduit au portugais et elle chante cette chanson aussi d'une façon formidable.
Cristina Blanco, qu'on a entendu c'est... au début de cet entretien. C'est notre bon, l'Espagne, lieu de prédilection, pays dont vous êtes tombé amoureux. Cela pourrait s'expliquer, dites-vous, par l'attrait des gens du Nord pour le Sud, par cette nostalgie éternelle et parfois suspecte des gens du Nord pour le Sud. Mais cela aurait pu être la Grèce ou l'Italie ou l'Afrique du Nord. Et pourquoi l'Espagne, dont vous dites qu'elle est à la fois brutale, anarchique, égocentrique, cruelle, chaotique, irrationnelle, pour tout ce qu'elle a d'absurde et d'incohérent?
Oui.
Et
de
vous
temps
dites aussi
en temps,
qu'elle vous
je
ressemble.
Me suis reproché cette phrase, mais
parce qu'on doit vous la...
les derniers développements dans la politique espagnole me donnent raison, parce qu'il y a toujours ce côté. Il y a... C'était l'Espagne. J'avais vu l'Italie avant, qui était civilisée, opéra bouffe, tout ce que vous voulez, mais l'Espagne était vide. Et moi, je viens d'un pays surpeuplé. L'Espagne a ces espaces énormes. Et aussi, au moment que je suis venu pour première fois, c'était encore le temps de Franco. Ils avaient eu leur guerre civile. C'était encore, c'est une manière de dire, mais sous-développé. On parlait de l'Europe comme un autre pays, à l'autre côté des Pyrénées. Et j'avais l'impression de voyager... comme Stendhal avait voyagé en Italie un siècle avant. C'était aussi un autre temps. Puis j'aime ce langue. Je trouve l'espagnol très beau. Et j'aime aussi leur façon de ne pas être plaisant. Ils sont ce qu'ils sont.
Austère.
Austère, oui. Surtout, enfin, il y a plusieurs Espagnes, comme vous savez. Il y a la Catalogne, qui est quand même méditerranéenne, mais la Meseta, le cœur de l'Espagne, le désert, la Meseta, Castilla-León, Aragon, ça c'est mon père de l'Espagne préférable, préféré.
Dans le labyrinthe du pèlerin, Mes chemins de Compostelle, qui a été publié aux éditions Actes Sud en 2005, où à travers des tours et des des détours, vous entrez dans la complexité des histoires, des âges, des guerres, des civilisations qui se sont succédées en Espagne. Vous donnez aussi les raisons de ce pèlerinage qui n'en est pas un, puisque vous dites non pas un pèlerinage comme font les autres, mais plus pour retrouver l'ombre de ce que je fus, pour revenir sur les traces d'un voyage passé, en quête de quoi ? L'une des rares constantes de ma vie, c'est mon amour, il n'existe pas d'autre mot pour l'Espagne. Femme et amis ont disparu de mon existence, mais un pays ne s'en va pas.
Non, les pays restent où ils sont.
Et dans ce pays, une île que pendant longtemps vous n'avez pas nommée, mais maintenant on peut le dire, puisque dans Pluie Rouge...
Oui.
Vous vouliez préserver.
Oui, j'ai pas pu échapper à cela parce que, disons, les médias m'ont trouvé là, ils ont fait des films, etc. Menorca, c'est pas vraiment, disons, l'Espagne. Il parle aussi une langue, disons, une forme du catalan, le menorquine, et c'est un pays méditerranéen. C'est pas mon Espagne, mais j'ai trouvé là un endroit pour travailler et un terrain où j'ai construit mon jardin avec toutes les fautes que quelqu'un qui a été, comment dit-on en France, un homme de ville
n'est un pas. Un citadin.
Oui, un citadin, oui, c'est ça. Or, j'ai fait des fautes horribles, j'ai planter des palmiers sans savoir que les palmiers vont boire tout l'eau qui est autour d'eux, etc., etc. Et c'est sur ça, sur ce, sur cet amateurisme horrible que... Mais j'aime mon jardin, seulement mon jardin est toujours fâché avec moi parce que je pars.
Ah, oui.
Et quand je reviens, le jardin fait des choses pour me faire savoir que je suis pas resté, quoi.
Parce que dans cette île, vous passez au moins 2, 3, 4 mois, 4 mois chaque année, depuis 40 ans.
Ouais.
Et cette île, vous racontez à la fois dans Pluie Rouge ses habitants, vos voisins, leur langue, les histoires de puits, de citernes, les animaux, beaucoup, beaucoup d'animaux. Le règne animal est très présent, depuis le chat chauve-souris, qui est une sorte de divinité domestique à qui est dédié le prologue du livre et qui apparaissait déjà dans l'histoire suivante. Et puis il y a des tortues, des chiens, des mules, des poules, des oiseaux. Il y a les parcelles de terre en jachère. Il y a des arpents qui somnolent comme ça dans les cadastres. Et il y a les plantes. Et il y a ce fameux jardin, votre jardin, où, entre autres, il y a ces deux palmiers que j'ai plantés, dites-vous, il y a plus de 30 ans, et qui, tout ce temps, sont restés au même endroit, tandis que je dansais autour du monde. Et puis, il y a les bruits.
Quand je les ai plantés, ils venaient jusqu'aux mes genoux.
Oui, hein? Et aux genoux d'écrivain Hugo Claus, votre ami,
oui.
Qui était là.
Il y a une photo de nous avec ces plantes, et maintenant, il est disparu, mais les palmiers sont encore là.
Et je disais, il y a aussi tout l'univers sonore, les bruits qui scandent les jours et les nuits. Et c'est à la fois un exercice de l'œil et de l'oreille.
Putain, mais quand on vit quelque part, disons, dehors du village, et on a des voisins, c'est comme le chat, par exemple. J'avais un Renault 5, le chat connaissait le bruit du moteur. Alors le chat était déjà là devant la maison quand on arrivait de loin. Et on devient comme ça, moi aussi, parce que je connais le son du cheval du voisin quand il rentre, etc. Alors il y a une sorte de montre, parce que la plupart des gens ont des vies régulières et qui vous servent comme une montre avec les différents bruits qu'ils font.
Et puis tout ce monde animal, végétal, humain, continue d'exister quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes plus là. Et celui qui s'en va l'hiver, dites-vous, n'a plus voix au chapitre. Et le mal du pays, c'est un mal qui ne vous prend pas souvent, la nostalgie, mais quand ce mal arrive, il est la conscience douloureuse d'une double vie.
Oui, c'est une vie parallèle, quoi.
Ouais. Et quand le mal s'aggrave, je ferme les yeux, je pense à mon jardin, je le vois en pensée. À Amsterdam, donc, vous fermez les yeux, vous revoyez...
À Amsterdam ou à Berlin, parce que je vis souvent en Berlin aussi. Et en fait, l'automne dernier, j'ai vécu 3 mois à Berlin. Je vais refaire cela en octobre et novembre. Or, là aussi, j'ai une vie. Mais il y a beaucoup, quand on connaît un peu, disons, quand on a voyagé toute sa vie et on est revenu sur certains endroits, on connaît, disons, la façon de vivre que vous auriez si vous étiez là.
Or, donc en pensée, vous êtes aussi...
Je sais maintenant, par exemple, le bar que je fréquente à Amsterdam, je sais exactement à quelle heure se passe quoi. Et ça, c'est partout. Alors, on a des vies un peu partout qui donnent une fausse idée d'avoir plusieurs vies et qui donnent une fausse idée d'exister un peu plus que les autres. C'est faux.
Mais parfois... Quand vous êtes loin de votre île, il y a un vers d'Hugo Claus que vous avez choisi pour exprimer le sentiment que vous éprouvez à ce moment-là. Un homme heureux, surpris par le doute.
Oui, gelukkig mens door de twijfel verrast. Oui, c'est très beau. Oui, ça arrive, mais ça arrive, je pense, à tout le monde. Que vous êtes heureux ou ça va, tout va bien, et soudain il y a ce doute. Ce doute qui n'est pas exactement défini, mais un doute surtout.
Un doute qui est à la fois aussi un regret, un sentiment de nostalgie ou même de culpabilité, puisque votre jardin, vous le disiez tout à l'heure, il est rancunier, il se venge de ses absences.
Non, mais c'est doute peut-être aussi. Par exemple, Hugo Claus est mort. C'était peut-être un meilleur ami. Le doute est qu'à mon âge, les gens meurent autour de moi, même les plus jeunes. C'est de cela que traite mon dernier livre, qui n'est pas encore traduit en français.
Et dans le titre, hein ?
La nuit viennent les renards. Les renards viennent la nuit. Comment, je ne sais pas encore comment le traducteur va le faire. C'est quelqu'un qui, à 5 heures la nuit, se réveille toujours et qui a des doutes et de temps en temps des mauvais rêves ou des angoisses. Et il raconte ça à une femme et cette femme dit « Oui, ma grand-mère disait toujours, la nuit viennent les renards. »
Les
renards, pardon, pas les renards.
Dans Pluie Rouge, César Notenboom, vous n'évoquez pas seulement l'île de Minorque, vous passez une grande partie de votre temps, mais vous évoquez aussi vos premiers voyages, les frontières traversées, et vous évoquez, vous reprenez, à 60 ans d'écart, les journaux intimes. Vous relisez les journaux intimes que vous aviez écrits, jeune homme. J'ai le plus grand mal à supporter leur auteur. Un peu exalté, romantique, un être, un devenir qui mettrait encore beaucoup de temps avant d'arriver à quelque chose. J'étais en construction et ce n'était pas un Delors. Et voilà, on parlait de ce portrait peu complaisant que vous faites de vous-même de ces années-là. Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver ces cahiers, de les ouvrir, de vous replonger?
Je les avais encore, je les avais chez moi, mais je ne les regardais jamais. Et fin de compte, en écrivant Pluie Rouge, j'ai commencé à les lire. Et ce n'était pas agréable.
Et d'ailleurs, parmi ces cahiers, il y a aussi un herbier. Et c'est étrange, il y a un étrange écho entre les pages de Pluie Rouge qui sont dédiées, consacrées au jardin, à ce jardin rebelle et rancunier qu'il faut dompter, qu'il faut comprendre. Et puis cet herbier de jeunesse où au fond, ces plantes vous regardent d'un œil mort. C'est le pendant du jardin luxuriant.
Oui, je l'ai gardé avec, c'était chez les franciscains, on faisait des promenades dans la nature pour cueillir des fleurs et puis les déterminer et puis les coller dans un cahier. Et là, maintenant, j'ouvre ce cahier, les fleurs sont encore là, ils ont des noms étranges, très difficiles à traduire. Je crois que Philippe Noble a fait quelque chose de merveilleux là. Mais ce sont des fleurs mortes, qui, il y a combien de temps 50, alors 60 ans. Ce sont des fleurs qui ont été frais, avec leur couleur, il y a 60 ans. Et là, ils sont enterrés dans mon cahier. Avec mon écriture de ce temps-là, qui était un peu enfantin, en essayant de leur donner leur nom latin et néerlandais.
Leur dessèchement entre les pages du cahier marque la mesure infiniment lente qui rend supportable la métamorphose. 1948-2007, les couleurs passent, mais les formes sont restées visibles.
Oui, c'est ça.
C'est, noté pour...
c'est
oui.
Toujours mieux d'écrire que de parler. Parce que quand on se met à écrire, on formule les choses. Donc ça peut prendre une phrase pareille, peut prendre quelques heures. Mais quand on parle, on cherche. Tandis que, oui, quand on écrit, on cherche aussi. Mais il y a un résultat. Tandis que le résultat en parlant reste toujours flou. Ça va de tous côtés.
C'est noté, bon, on arrive à la fin de cette émission. Comment naissent vos livres? C'est une grande question pour peu de temps, mais vous avez une formule particulière, vous dites « j'attends un livre ». Comment se passe cette gestation?
Oui, mais ça peut être aussi une excuse de ne rien faire. C'est très difficile. Et je me rappelle bien l'exemple de l'histoire suivante, parce que l'histoire suivante était une commission. C'est un peu compliqué, je ne vais pas expliquer tout, mais une fois par an, la Hollande a un présent qu'on donne aux gens qui entrent dans une librairie et qui achètent un livre. Et on donne l'autre livre en présent, en cadeau. Or, c'est une commission. Et on sait d'avant, comme écrivain...
Une commande.
Une commande. Il y aura un tirage de entre 500 000 et 1 million. Et j'avais eu cette commande en 92. Et c'était l'histoire suivante. Et j'avais aucune idée. Il faudrait faire le livre dans 6 mois. Et je ne savais rien. Et je suis allé à Lisbonne. Et pendant une semaine, j'ai traversé Lisbonne et j'ai écrit tout ce que je voyais. Et puis je me suis mis sur mon île avec mon cahier blanc et je ne savais rien et j'ai commencé. Il y a des écrivains qui ont des projets. J'étais dans la maison de Faulkner en Oxford, Mississippi, où il avait écrit le plan de son prochain livre sur le mur. Félicitations, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas, je saute. Et avec ce livre-là, j'avais l'impression d'avoir sauté en air et que j'avais fait un salto mortal et en revenant sur mes pieds.
C'est comme sauter dans un bus sans savoir la destination du bus, selon le conseil que vous donnez aux jeunes gens qui veulent découvrir le monde.
Oui, mais c'est toujours comme ça. Il faut qu'il y ait une tension tellement... le résultat, c'est une sorte de Big Bang, que ça explose et que finalement, on a un livre.
Merci, Cees Notenboom, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Je rappelle le titre de votre dernier livre traduit en français, Plus rouge, traduit du néerlandais par Philippe Noble, avec des dessins de Jan van Riet.
Van Riet, oui.
Van Riet.
C'est un flamand, oui.
Et c'est aux éditions Actes Sud. En attendant le prochain qui n'est pas encore traduit.
C'est ça.
C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Réalisation Brigitte Alléo, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.